Frères et sœurs, un privilège pour moi d'être encore dans votre présence, vous apporter la parole de notre Dieu. On va faire deux lectures ce matin, les deux qui portent sur la ville de Jérusalem. Le premier de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le psaume 48. Si vous voulez suivre avec moi, la page 567 de votre Bible. 567, le psaume 48. Et comme nous allons lire dans les derniers versets, cet appel à admirer la ville de Dieu. Écoutez, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, réjouissance de toute la terre. La montagne de Sion, du côté du nord, la ville du grand roi. Dieu, dans ses donjons, est connu pour une haute retraite. Car voici ce que les rois s'étaient concertés. Ils se sont avancés ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits, épouvantés. Ils se sont sauvés. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui enfante, comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bienveillance au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion et contournez-la. Comptez ses tours. Observez ses remparts. Examinez ses donjons. Pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Notre deuxième lecture, et cette fois-ci dans l'ancien livre de la Bible, le dernier livre de la Bible, désolé, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Apocalypse chapitre 21, la page 291 du Nouveau Testament, donc à la toute fin de nos Bibles, Apocalypse 21. Petit rappel, il y a quelques semaines, j'ai prêché sur les premiers versets. Cet verset, c'est un texte qui parle d'une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre, et surtout le fait que la Jérusalem céleste descende sur la terre. Dieu habite avec son peuple sur la nouvelle terre, et cela pour l'éternité. Le verset 1 à 8 a été d'une manière la conclusion des visions précédentes, puis la transition vers la dernière vision. Apocalypse chapitre 21, verset 9 jusqu'au chapitre 22, le verset 5, c'est la dernière vision. Puis un petit détail intéressant, si on fait la division des visions en Apocalypse, on est rendu à la huitième. Et pour le peuple juif, la huitième signifiait la résurrection. De plus, si on fait la subdivision de toutes les des visions, on est rendu au 500e épisode. 500, ce qui est l'année de la jubilée, la libération joyeuse du peuple de Dieu. Donc voici un texte qui nous dit, votre notre vie nouvelle, éternelle, une libération joyeuse. Écoutons donc la parole de notre Dieu, Apocalypse 21, je commence la lecture au verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspre, transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurait la ville avec le roseau, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesurait la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspre et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspre, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième de d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze pierres. Désolé, les douze portes étaient douze perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y rentre rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Prions notre Seigneur. Notre Dieu et Père, quel texte merveilleux, quelle vision, Seigneur, d'une ville absolument extraordinaire. Alors, donne-nous, Seigneur, les yeux de ton esprit, les yeux de ton esprit pour voir ce que tu prépares pour tes enfants. Nous le demandons au nom précieux de Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Je vous encourage, frères et sœurs, regardez autour de vous. Regardez les frères et sœurs de cette assemblée. Regardez les frères et sœurs de votre assemblée, ceux qui vous connaissez très bien. Et dites-vous, quelle belle assemblée! Quelle belle assemblée! Quel beau frère en Jésus-Christ! Quelle belle sœur en Jésus-Christ! Quelle belle assemblée le Seigneur nous a donnée! Parce que c'est ainsi que Dieu voit votre assemblée. Son regard porte sur vous comme une belle assemblée, une belle église. Dieu, comme on peut lire dans la prophétie de Sophonie, chapitre 3, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Vous êtes la plus grande joie de l'Éternel, notre Sauveur. Et cela se voit dans cette vision que nous venons de voir, venons de lire, cette vision de la Nouvelle Jérusalem, de cette ville sainte, magnifique, précieuse, glorieuse, parce qu'elle rayonne de la gloire de Dieu. Première partie de verset 11, elle avait la gloire de Dieu. Jérusalem avait la gloire de Dieu. L'Église a la gloire de Dieu. L'Église est le reflet de la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est au milieu de nous. Dieu, notre Père, le Fils, l'agneau de Dieu, et aussi le Saint-Esprit. Notre gloire vient de lui. Un reflet de notre Dieu glorieux. Et voilà donc notre espérance, frères et sœurs. Notre espérance est d'être un peuple glorieux. Un peuple glorieux, magnifique. Un peuple glorieux dans la sainteté de Dieu, dans la bonté de Dieu, la justice, l'amour de Dieu. Notre espérance pour l'éternité, c'est d'être un peuple magnifique. Un peuple joyeux, parce que Dieu, notre Père, il se réjouit de nous. Alors, on veut considérer ce texte, frères et sœurs, et voir encore la gloire qui est la nôtre. La gloire qui est la nôtre, parce que Dieu est au milieu de nous. Et notre espérance pour l'éternité. Petit rappel qu'on a vu dans le premier passage, le premier verset du chapitre 21. que Dieu va habiter au milieu de nous pour l'éternité. Voilà notre espérance. Mais nous espérons aussi d'être un peuple glorieux. J'aimerais donc sortir quelques enseignements de ce texte. Il y en a plusieurs. Mais j'aimerais sortir quelques leçons pour nous en tant que peuple de Dieu et notre espérance. Dans un premier temps, regardons bien la ville. Non pas comme une métaphore du peuple de Dieu, mais plutôt simplement comme une cité, une ville. L'Éternel Dieu a créé une ville qu'il a préparée au ciel, qui fait descendre aussi sur la terre. Et voici l'histoire de Dieu, l'histoire de la rédemption. Nous passons d'un jardin à une ville. Nous passons d'un jardin à une ville. Vous connaissez, n'est-ce pas, le jardin, même les enfants, on le lit souvent, Genèse chapitre 1, 20, chapitre 2, le jardin d'Éden. Dieu a créé la beauté de la création, puis il a planté un jardin, un paradis. Ici, on arrive au 21, c'est la nouvelle création, une nouvelle terre. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est une ville. Oui, il y aura un jardin dans la ville, ça c'est le chapitre 22, mais d'abord et avant tout, nous voyons qu'il y a une ville. Et rappelons-nous, comme je l'ai dit la dernière fois, cette nouvelle terre n'est pas une terre créée ex nihilo, c'est-à-dire de rien. On devrait comprendre que cette nouvelle terre est plutôt une terre qui est renouvelée, restaurée. On enlève tout ce qui est mauvais et on va le restaurer. Mais ce n'est pas simplement, comme je l'ai dit la dernière fois, de restaurer une ancienne maison, une maison qui est délabrée, puis le restaurer à son ancien état. Dieu, dans la nouvelle création, va améliorer ce qu'il a créé. La très belle création, la très bonne création va devenir une création superbe, parfaite, avec une ville, une grande ville. Il y a une leçon pour nous les chrétiens, une leçon pour nous concernant le développement humain. Tout ce que nous avons créé, construit, cela est bien aux yeux de Dieu. Déjà en Genèse chapitre 2, Dieu avait mis l'homme et placé dans le jardin pour qu'il cultive et garde. Cultiver la terre, oui, mais aussi cultiver tout ce qui est dans la terre pour construire des maisons, pour construire des villes, pour construire et fabriquer des instruments, des ordinateurs. Pour les chrétiens, la technologie, la construction, et même le théâtre, l'écriture, le jardinage, la musique, la recherche que nous faisons, l'administration, réparer des dents, gérer l'argent, faire l'arbitre d'une équipe de sport, tout ça est dans le plan de Dieu pour son peuple. Pour les chrétiens, tout ce développement n'est pas mauvais, même s'il y a de ce qui est fait mauvais dans tout ça, mais ça fait partie du bon plan de Dieu. Et donc, peut-être une leçon pratique pour nous. Parfois, comme les chrétiens, on veut aller rencontrer, voir la beauté de ce que Dieu a fait. Puis on va aller prendre une marche à la campagne, on va aller dans la forêt et on dirait, quelle beauté de tout ce que Dieu a créé. Et parfois, même les chrétiens vont dire, oh, je ressens la présence de Dieu à la campagne. Oui, certes, mais Dieu est aussi présent en ville. La beauté de ce que nous avons créé, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, la beauté de ce que nous avons construit est aussi un reflet de la beauté de Dieu. Et Dieu est aussi présent en ville. Donc, première leçon, donc, nous passons d'un jardin à une ville. Dans cette ville, dans une deuxième leçon, cette ville est évidemment un symbole, une métaphore du peuple de Dieu. On l'a lu déjà, chapitre 21, le verset 2, qui dit que la ville, la nouvelle Jérusalem, est le marié qui s'est faite belle pour son épouse. Ici, dans notre texte, le verset 9, la deuxième partie, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Puis on voit la ville, Jérusalem, est un symbole du peuple de Dieu. C'était toujours comme ça, même dans l'Ancien Testament, même si la ville de Jérusalem était une ville historique, conçue à défendre, c'était en même temps un symbole du peuple de Dieu. Dieu lui-même était au milieu de son peuple grâce au temple. On revient à ça tout à l'heure. C'est pour ça que nous avons lu le psaume 48. de parcourir la ville de l'Éternel Dieu et de voir la splendeur de sa ville, parce que l'Éternel lui-même est présent au milieu de cette ville. La beauté de Jérusalem dans l'Ancien Testament n'était pas parce que c'était la plus belle ville de l'Antiquité, c'était à cause de la beauté de la présence de l'Éternel Dieu. Ici, en Apocalypse, chapitre 21, le verset 11 dit que cette ville avait la gloire de Dieu. Cette ville rayonnait de la gloire de Dieu. Comme nous, le peuple de Dieu, nous rayonnons de la gloire de Dieu. Ici, c'est une vision de la dernière étape de la vie éternelle. La gloire dont nous allons rayonner. Et c'est justement ce qui est enseigné dans les Écritures, n'est-ce pas? Notre dernier état, c'est la glorification. Le texte en Romains chapitre 8, verset 29, que nous aimons beaucoup, que ceux que Dieu a connus d'avance, ceux que Dieu a aimés d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Pour être un reflet de Jésus-Christ, être un reflet de la gloire de Dieu, son image en nous. Et donc, les désirs de Dieu, le plan de Dieu, ce qu'il va certainement faire, c'est de nous rendre parfaitement à son image. Glorieux, perfection, une perfection rayonnante pour que nous soyons comme Dieu. Regardons quelques aspects de ça. D'abord, c'est simplement cette gloire sera la sainteté du peuple de Dieu. Nous serons un peuple d'une sainteté glorieuse. D'une sainteté glorieuse, d'une perfection morale, comme Dieu. Cela nous est décrit dans le verset 11 et suivant. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Le verset 18 qui dit « La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à une verre pure. » Puis ensuite, on a toutes ces pierres précieuses. Vous pouvez faire une petite recherche Google pour avoir une image de toutes ces pierres, mais moi, je vous encourage à penser aux billes, les billes d'un enfant. Les billes qu'on va rouler, pas en toute couleur, mais les plus noires, mais quand même brillantes. Voilà les pierres précieuses qui vont être le fondement de cette ville. Est-ce qu'on peut imaginer une ville comme c'est décrit ici? Peut-être qu'il y a même des enfants qui peuvent y faire un dessin. Imaginez la ville ici. Nous, on a des villes comme Montréal, mais Montréal, je trouve, c'est toujours une ville un peu bétonnée. C'est tout de béton. Il faut aller dans d'autres villes plus importantes. Comme je fais des recherches, vous pouvez voir des images des belles villes comme Prague ou Hong Kong, ou encore Amsterdam, Rio de Janeiro, Dubaï. Avez-vous vu la ville de Dubaï? C'est gratte-ciel, incroyable. Ou d'autres belles villes, comme la ville de Québec. Oh, c'était dans mes recherches. Quand j'ai demandé belles villes, puis ils ont dit la ville de Québec. Donc, voilà. Mais on n'a pas besoin d'aller voir sur Google les images des belles villes. On peut simplement revenir dans les Écritures. Le roi Salomon, la ville de Jérusalem, était à l'apogée de sa richesse. On lit 1 Roi, chapitre 10, que le roi rendait l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. L'argent aussi commun que les pierres. Mais waouh! Mais avez-vous remarqué ici? Ce n'est pas l'argent, c'est de l'or. De l'or aussi commun que les pierres, que du béton. Quelle ville extraordinaire! Et ça reflète une image de notre sainteté, de la sainteté du peuple de Dieu. La sainteté de la manière que l'agneau de Dieu, comme c'est souligné dans ce texte, la manière que l'agneau de Dieu va nous purifier, nous glorifier. Ce qu'on a déjà lu dans ce texte en Éphésiens chapitre 5, Jésus, le Christ, il aime l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la rendre à la sainteté, la conduire à la sainteté, de l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Sans tâche, ni ris, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et ce que nous avons lu, ce que nous lisons en Éphésiens chapitre 5, nous le voyons ici en Apocalypse 21. Une ville absolument glorieuse parce qu'il nous rend une sainteté glorieuse. Une sainteté glorieuse qui va dépasser tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous désirons aujourd'hui. Chaque culte, on a un moment de pardon, demande de pardon des péchés. C'est important. On sait qu'on est pécheur, mais peut-être ça vous arrive en faisant cette demande de pardon, vous dites, mais je ne suis pas si pire. J'ai un peu de difficulté à nommer une faute exacte, à demander pardon. On peut avoir cette impression que, oui, on n'est pas si pire, nous. Surtout si on regarde ce qui est sur l'Internet, les influenceurs ou les voisins, ou même parfois même un autre membre de l'Église. Oh, je ne suis pas pire. Mais on regarde ce que le Christ prépare pour nous. Et on est encore loin de cette sainteté glorieuse. On est loin encore de cette justice, cette perfection glorieuse qu'il prépare pour nous. Et donc, cette image, cette vision devrait nous appeler à l'humilité, d'être un peu plus modeste, humble, dans notre façon de nous évaluer comme bons chrétiens. C'est vrai, comme dit l'apôtre Paul, le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Le bien qu'on veut, nous le ferons parfaitement dans l'éternité. Notre grand encouragement, notre espérance, c'est que le Christ va nous rendre bons, parfaits, justes, remplis de compassion, remplis d'un amour parfait, d'une sainteté glorieuse. Voilà d'abord une leçon pour nous, peut-être une autre leçon pour nous encourager. L'autre leçon, c'est simplement qu'on va être un peuple incroyablement nombreux. On va être un peuple de Dieu incroyablement nombreux, que personne ne peut compter. Ici, vous allez voir la ville et voir la mesure de la ville. Vous avez peut-être suivi les mesures qu'on a données, les versets 16 et suivants. C'était égal longueur et largeur, 12 000 stades. Longueur et largeur et hauteur étaient égales, donc probablement un cube, avec des murailles de 144 coudées. Puis ça, ce n'est pas les mesures qu'on a. Si on va le transformer en mètres, ça veut dire que la muraille aura presque 72 mètres de large. Ça, c'est plus long qu'un terrain de football. Le muraille, l'épaisseur du muraille, vous dites, ça, c'est énorme. Mais on comprend très bien pourquoi c'est si énorme. Si on va transmettre les stades en kilomètres, 12 000 stades, c'est presque 2 200 kilomètres. 2 200 kilomètres de long, de large et de haut. Et donc, j'ai fait encore avec mon ami Google. J'ai commencé à Montréal, 2 200 kilomètres. On se rend à Orlando, Florida. Et d'Orlando, on va jusqu'à Houston. Houston, Texas, on va remonter à Winnipeg, Manitoba, puis on revient à Montréal. Voilà la grandeur de cette ville. C'est fou. Puis vous, si vous prenez un petit moment pour dire toutes les grandes villes à l'intérieur de ce terrain, Montréal, Toronto, New York, Atlanta, incroyable. Moi, j'ai pris un avion cette semaine, j'ai arrivé à Toronto, c'était une belle vue sur Toronto, on était à quelques centaines de mètres. Puis tu dis, la tour CN, c'est petite. Mais cette ville ici, c'est un cube. L'auteur des murs, 2200 kilomètres. Il y a un peu une dispute entre les théologiens pour l'exégèse du texte, mais quand même, 2200 kilomètres, c'est énorme. On est dans ce qu'on appelle l'exosphère, de toutes les sphères autour de nous. Vous connaissez peut-être la Station spatiale internationale. Cela orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. On est à 2200 kilomètres. Là, on comprend pourquoi on a un muraille 72 mètres de large. Ça prend ça. Mais on peut se poser des questions. Est-ce que c'est une ville littérale? Est-ce que Dieu... Mais écoute, Dieu, avec Dieu, rien n'est impossible. Personnellement, je crois que c'est vraiment une image de ce qui est le peuple de Dieu. En fait, dans le texte qui est bien ici, on a des chiffres comme 12 et 1000, et 12 fois 12. C'est des chiffres qui signifient ce qui est complet, ce qui est total, ce qui est la plénitude. On a ici la plénitude du peuple de Dieu. Tout le peuple élu, tous seront rassemblés à un nombre incroyablement grand. En fait, il faut simplement lire cette vision en Apocalypse 21 en lien avec chapitre 7, où l'apôtre Jean dit, « Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. » C'est ça le peuple de Dieu. Un nombre, une foule que personne ne peut compter. Certes, dans les Écritures, il parle d'une reste. Le peuple de Dieu, c'est un reste. On lit aussi des textes qui disent « Beaucoup cherchent le chemin, mais peu le trouvent, menant la vie éternelle. » Mais quand même, ceux qui le trouvent sont un peuple nombreux, une multitude que personne ne peut compter. Quel encouragement pour nous, frères et sœurs, parce qu'on est ici dans nos petites assemblées. Oh, on n'a qu'une petite assemblée, on dit. Mais regardez bien, levez les yeux. Le peuple de Dieu est un peuple qu'on ne peut pas compter. Un peuple immense, très nombreux. Cette nuée des témoins, une multitude, des milliards, non, des milliards. Quel encouragement pour nous. Parce que oui, on a une petite assemblée, on arrive à la retraite de l'ERC avec 150, 120, 150 personnes. On dit, oh, que c'est bien d'être un grand groupe ensemble. Puis ensuite, on lit les nouvelles d'une conférence qui a lieu à Orlando de 5000 personnes. On est jaloux. Mais non, peuple de Dieu, nous faisons partie de ce peuple nombreux que l'Éternel Dieu est en train de préparer. Un détail avec ce peuple nombreux, c'est de nous rappeler que c'est un peuple qui vient des deux alliances. Petit détail dans le texte, mais quand même très important. Ce peuple nombreux est formé des peuples de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, c'est-à-dire du peuple d'Israël, mais aussi le peuple de toutes les nations. Nous le lisons dans les versets 12 et suivants. On parle de ses fondements et de ses portes. Le verset 12 qui parle avait les murailles, il y avait les 12 portes sur les 12 anges, et des noms étaient inscrits sur des 12 tribus des fils d'Israël. Les 12 portes avec les 12 tribus d'Israël. Et plus loin, le verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. 12 tribus, 12 apôtres. C'est-à-dire la plénitude du peuple de l'Ancienne Alliance, la plénitude du peuple de la Nouvelle Alliance. Et ce qui est important, ça forme une seule ville. Parce qu'il y a un seul peuple de Dieu, l'Ancienne et Nouvelle Alliance, ensemble. Et la plénitude de ce peuple, parce qu'il y en a 12 fois 12, le peuple complet. Peut-être un petit détail ici à souligner. Le fondement de la ville, c'est les apôtres. On construit la ville en premier, on construit la fondation en premier, et on peut redire, mais ça devrait être les prophètes, parce qu'eux y arrivaient avant les apôtres. Mais cette ville nous enseigne que ce qui est essentiel au message de l'Évangile dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, c'est le message des apôtres dans la pierre angulaire et le Christ. Et le message des prophètes de l'Ancienne Alliance est construit sur le message de Christ. Tendance à parfois à dire, dans notre dispute avec la théologie de la dispensationalisme, peut-être on devrait commencer ici en Apocalypse 21. Puis ensuite, avec ce regard d'Apocalypse, revenir dans les anciennes prophéties pour mieux comprendre. Mais pour nous, ce qui est important, qu'il y ait un seul peuple de Dieu. Un seul peuple de Dieu construit des peuples juifs et non-juifs, tous ensemble. Et alors, on n'est pas à donner de l'argent pour ramener les peuples juifs dans l'État d'Israël. On est plutôt à annoncer l'Évangile aux Juifs partout où ils habitent pour qu'ils se joignent, pas autant à nous, qu'ils se joignent à Christ, qu'ils soient greffés à Christ comme nous sommes greffés à Jésus-Christ. Et ensemble, notre espérance est de former un seul peuple. Mais un autre détail ici, encore plus important, c'est que ce peuple nombreux d'une sainteté glorieuse venant des deux alliances sera un peuple habité par Dieu. Nous serons un peuple habité par Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu vivra en nous. Parce que toutes ces réalités, toute cette gloire de la ville ne veut rien dire si Dieu est absent. Il faut que Dieu soit présent. En fait, la gloire de la ville vient de la présence de l'Éternel, notre Dieu. Et ce texte souligne de nouveau, comme on a déjà vu au début du chapitre 21, surtout le verset 3 qui parle de Dieu, il va tabernacle avec son peuple, il habite avec son peuple. Nous revenons sur ce thème dans le verset 22 et suivant. Le verset 22, « Je ne vis pas de temple, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, et ainsi que l'agneau. » Il n'y a pas de temple. Il y avait un temple dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi le temple dans l'Ancienne Alliance? Pour signifier la présence de l'Éternel Dieu, avec l'Arche de l'Alliance, avec les sacrifices. C'était la présence, la demeure de Dieu. Maintenant que Dieu habite personnellement avec son peuple, on n'aura plus besoin de temple. On n'aura plus de besoin de temple pour vivre cette communion avec Dieu. En fait, toute la ville est le temple de Dieu. Nous revenons encore à cette dimension de la ville, les mesures de la ville. Ça forme un cube aussi large que haut que profond. Un cube. Tout comme les lieux saints, les lieux très saints du temple. 1 Rois chapitre 6. Les lieux très saints, là où était l'Arche de l'Alliance, avaient 20 cubits par 20 cubits par 20 cubits et c'était couvré de l'or, d'or pur. On arrive en Apocalypse 21. La ville sainte est aussi large que haut et profond et c'est couvert de l'or pur. Le peuple de Dieu est le temple de l'Éternel Dieu. Et alors, l'Éternel Dieu habite, il est présent au milieu de son peuple, une présence personnelle, réelle, intime. Dieu le Père, mais aussi l'agneau, le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit? Mais là, il faut revenir au chapitre 22, l'eau vive qui coule dans cette ville. Pour nous, notre encouragement, c'est que l'Éternel Dieu, il habite au milieu de nous, comme nous le lisons souvent dans les Écritures. Et dans notre grande espérance, c'est que l'Éternel Dieu va vivre intimement, personnellement avec nous pour l'éternité. Comme on a vu dans le psaume 48, « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté, au milieu de ton peuple, la bonté de l'Éternel Dieu, au milieu de son peuple, pour apporter les bénédictions. » Les bénédictions de cette ville, de cette vie joyeuse. Ce que nous lisons dans ce texte, et on peut ajouter d'autres leçons, le fait que les portes sont ouvertes pour accueillir le monde, le fait qu'il y ait de la sécurité et plus de soucis la nuit pour fermer les portes. Mais en lisant tout ça, on peut dire, écoute, ce n'est pas seulement ce que nous espérons, ce n'est pas seulement ce qui est à venir avec le retour de Jésus-Christ. C'est ce que nous vivons déjà. C'est ce que nous vivons déjà. Nous sommes déjà le peuple de Dieu, son peuple saint. Nous sommes appelés les saints. Et nous sommes, on peut lire en 2 Corinthiens 3, Dieu est en train de nous glorifier. Nous qui contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur. Nous sommes déjà transformés à la sainteté, d'être de plus en plus comme Jésus, notre Sauveur. Et nous sommes déjà un peuple nombreux, même si on a une petite assemblée ici et là, on a des grandes assemblées. Plus que ça, on a des multitudes de gens qui sont rassemblés aujourd'hui partout sur la terre. On a depuis 2000 ans des croyants qui sont convertis, ajoutés. Non, on a depuis 6000 ans jusqu'à Adam et Ève. Tous ceux qui sont ajoutés à cette grande assemblée qu'on ne peut pas compter. Et certainement, nous vivons, nous connaissons la présence de notre Dieu. Nous sommes baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes rassemblés dans sa présence. Nous écoutons la lecture et l'enseignement de sa parole. Nous sommes ensemble à la table de notre Seigneur pour participer à la présence réelle, spirituelle de Jésus-Christ. Nous sommes en prière et en chant avec notre Sauveur. Et nous avons sa promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le Christ revienne pour que ce monde nouveau et le Christ, le Père et le Saint-Esprit vivent personnellement avec nous. C'est pour ça que nous sommes déjà l'œuvre de Dieu. Et c'est la raison pourquoi nous pouvons déjà nous regarder les uns les autres et dire, quelle belle assemblée! Quelle belle assemblée nous sommes! Magnifique, glorieuse! Parce que Dieu, notre Père, est l'agneau. Il est notre Sauveur. Amen. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour cette vision que tu nous donnes, cette vision de ce qui est ton peuple, de ce qui sera ton peuple pour l'éternité. Un peuple qui resplendit de ta gloire. Oh, Seigneur, garde-nous dans cette espérance, dans cette certitude. Voilà ce que tu prépares pour nous. Garde-nous dans cette espérance, cette certitude, surtout dans nos luttes, que ce soit avec le péché, les tentations, de nos épreuves dans ce monde de souffrance. Garde-nous dans cette espérance, surtout, Seigneur, dans cette assemblée. Et rappelle-nous que nous sommes déjà ton peuple glorieux. Et donne-nous à nous réjouir d'être ton assemblée, ton peuple précieux. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu, le cantique 160, le repos, notre espérance éternelle. Chantons, lèvons-nous.